Bonjour à tous. Vous allez bien ? J'essaie de repérer où sont les enfants, mais c'est vrai que c'est mieux quand ils sont tout devant, hein, parce que là, ils sont cachés, j'en vois pas beaucoup. Oui, je vois Léna, c'est bon. Alors, vous avez vu ce matin, ça y est, on est le 1er décembre, on attaque là, la dernière ligne droite de la fin de l'année, vous avez commencé à ouvrir les cases là, des calendriers de l'Avent ? Non, personne. Bon, il n'y a que chez nous, alors c'est pas grave. Et j'avais envie de parler avec vous ce matin de quelqu'un. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il est de saison. Je vais vous donner quelques indices. Si tu peux mettre juste la diapo suivante, on va voir si vous arrivez à reconnaître qui c'est. Quelqu'un qui aurait une assez grosse barbe et, je pense, une grosse voix, à mon avis, qui doit aimer un peu des trucs un peu sucrés. Et puis... Ah, Sacha, t'as... Goliath ? Non, ça va. Pas vraiment. Un autre. Yep. Alors. Non, mais. Qui a un habit, waouh, il doit avoir un peu de fourrure aussi sur ses habits. Allez-y, dites-le. Mais j'entends pas de proposition, là. Qui c'est ? Vas-y, Nadie. Ah, ben là, elle m'a tout cassé, là. Moi, j'attendais d'autres suggestions. Allez, on va dire qu'il y en a qui n'ont peut-être pas entendu. Parce que, il y avait quoi comme autre idée, si je vous montre tout ça ? Ouais, ça fait penser un peu au Père Noël, mais c'est pas ça. Vas-y, mais moi, je vais vous le faire autrement, là, parce que je me disais que certains peut-être n'étaient pas très visuels, alors je vous mets d'autres indices à la place. Quelqu'un qui est né miraculeusement, grâce à l'intervention de Dieu, il y a 2000 ans et des poussières. Il y a l'ange Gabriel qui est venu l'annoncer à ses parents et leur a dit quel nom il aurait. Vas-y, Sacha. Pardon ? C'est Jésus. Ça pourrait, mais non, toujours pas. En fait, la bonne réponse, je l'ai eue au premier rang. Vas-y, tu peux avancer jusqu'à les deux diapos suivantes, là, jusqu'à la suivante, parce que elle a eu, c'est effectivement Jean-Baptiste. C'est vrai que les indices que je vous ai donnés, ils étaient un peu piégeux, là. Ça pouvait faire penser à quelqu'un d'autre. Le premier, ça pouvait faire penser au Père Noël. Le deuxième, plutôt à Jésus, mais non. Moi, c'est Jean-Baptiste que je voudrais parler. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre Jean-Baptiste et la période de Noël ? Il n'y en a pas vraiment. Bah, quand même un petit peu. Parce que l'histoire de Jean-Baptiste, elle est très liée à celle de Jésus et dès sa naissance. On va commencer à lire un passage qui nous parle de lui, c'est dans Matthieu au chapitre 3. On va lire les versets 1 à 6 dans Matthieu. Donc il nous a dit ceci. À ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée. Et il annonce « Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. » Le prophète Ésaïe a parlé de Jean quand il a dit « Quelqu'un crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. » Jean porte un vêtement en poil de chameau, il a une ceinture de cuir autour de la taille, il mange des sauterelles et du miel sauvage. Alors les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain viennent vers Jean, ils avouent leurs péchés devant tout le monde, et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Donc vous avez vu la description qu'on a eue là de Jean-Baptiste, ça ressemble un petit peu quand même à ce que je vous ai mis dans la première diapo. Alors j'ai essayé de demander à l'intelligence artificielle de me générer une image, mais les sauterelles au miel, ils ne savaient pas trop faire. Hein, donc oui, ça ne ressemble pas du tout à une sauterelle, je ne sais pas ce que c'est ce truc-là, mais... Ouais, c'est peut-être une sorte de grosse larve de quelque chose, je ne sais pas. On va pas trop se poser de questions, mais vous voyez les sucreries qu'il aimait, les gens. C'est pas trop celle auquel on pense en cette période. Hein. C'est les sauterelles avec du miel sauvage. Ça, on va dire c'est culturel. Hein. On n'est pas trop habitué à ça chez nous. Et par contre, le reste de ce que je vous ai pris, voilà, il avait son vêtement en poil de chameau avec sa ceinture. Et puis, surtout, il était dans le désert à s'adresser à la foule. Donc c'est pour ça qu'on l'imagine souvent avec sa grosse barbe, parce qu'il ne devait pas se raser très souvent. Hein. Il n'y avait pas le miroir pour aller bien se raser proprement. Et puis pour s'adresser à la foule comme ça dans le désert, il fallait bien qu'il parle assez fort. Lui, il n'avait pas le micro comme moi. Et donc, Jean-Baptiste, comme je disais, il y a un lien entre Jean-Baptiste et Jésus, surtout déjà dès le début de leur vie. Parce que vous savez de quoi on se souvient, nous en particulier, à Noël. Qu'est-ce qu'on fête à Noël ? À part les cadeaux et les chocolats. Vas-y, Sacha, tu peux ? Exactement, on se rappelle de la naissance de Jésus. Et bien la naissance de Jean-Baptiste, elle s'est passée presque en même temps. Il est né juste 6 mois avant. Et on va lire ensemble l'histoire justement de cette naissance, parce que la naissance de Jean-Baptiste, elle était tout aussi miraculeuse que celle de Jésus. Vous vous rappelez que Jésus, c'était un miracle qu'il soit né. Ses parents n'étaient même pas encore mariés que l'ange est venu voir Marie et lui a dit « Tu vas avoir un bébé et tu vas l'appeler Jésus. » Et bien Jean-Baptiste, il s'est passé un truc qui ressemblait un petit peu quand même à ce qu'a vécu Marie et ce qu'a vécu Joseph. Et on trouve cette histoire dans l'évangile de Luc, au chapitre 1. Et on va la lire ensemble. Vous allez voir tous les points communs qu'il y a entre Jean-Baptiste et Jésus, notamment à leur naissance. Donc, au moment où Hérode le Grand, est roi de Judée, il y a un prêtre appelé Zacharie. Il fait partie de la famille d'Abia, une famille de prêtres. Sa femme appartient au clan d'Aaron et elle s'appelle Élisabeth. Tous les deux sont justes devant Dieu, ils obéissent parfaitement aux lois et aux commandements du Seigneur. Mais voilà, il y a un problème pour eux, c'est qu'ils n'ont pas d'enfants parce qu'Élisabeth ne peut pas en avoir. Et ils sont déjà vieux tous les deux. Un jour, Zacharie fait son travail de prêtre dans le temple de Dieu parce que c'est le tour de sa famille. Selon la coutume des prêtres, on choisit quelqu'un pour entrer dans le lieu saint du Seigneur. Et ce jour-là, c'est Zacharie qui entre pour offrir l'encens. Tout le peuple de Dieu prie dehors au moment où on brûle l'encens. Et alors, un ange du Seigneur se montre à Zacharie. Vous vous rappelez, lorsque Marie a vu arriver tout d'un coup un ange, ben là, c'est Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste qui a vu un ange apparaître alors qu'il est là dans le temple. Quand Zacharie le voit, il est ému et il a très peur. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie. Oui, Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. » Vous voyez, c'est comme l'ange qui a dit à Marie « Il s'appellera Jésus », ben là, l'ange est venu dire à Zacharie « Ton fils, il s'appellera Jean. » Alors, tu seras rempli de bonheur et de joie, et quand ton fils naîtra, beaucoup d'autres personnes seront dans la joie. En effet, il sera quelqu'un d'important pour le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucun autre alcool. Il sera déjà rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup de gens d'Israël vers le Seigneur leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'Esprit et la puissance du prophète Élie. Comme Élie, ton fils fera la paix entre les parents et leurs enfants, il changera le cœur de ceux qui n'obéissent pas à Dieu et ils se mettront à penser comme des personnes justes. Alors il formera pour le Seigneur un peuple bien préparé. Zacharie dit à l'ange, « Comment savoir que c'est vrai? Je suis bien vieux et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui répond, « Moi, je suis Gabriel. » Vous voyez, c'est Gabriel encore, c'est le même qui allait voir Marie en fait, 6 mois après. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir, et il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, tu vas donc devenir muet. Et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Oui, ce que je t'ai dit arrivera au moment que Dieu a fixé. Pendant ce temps, le peuple attend Zacharie. Les gens s'étonnent de le voir rester si longtemps dans le lieu saint. Et quand il sort, il ne peut pas leur parler, il leur fait des signes et il reste muet. Alors les gens comprennent qu'il a vu dans le lieu très saint quelque chose venant de Dieu. Puis, quand Zacharie a fini son temps de service dans le temple, il rentre chez lui. Et après cela, sa femme Élisabeth devint enceinte et pendant 5 mois, elle se cache dans sa maison. Elle se dit « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, j'avais honte devant mon peuple parce que je n'avais pas d'enfant. Mais maintenant, le Seigneur s'est occupé de moi et il a enlevé ma honte. » Donc Zacharie, le père de Jean-Baptiste, c'était un sacrificateur, c'était un prêtre. Il servait dans le temple. Et sa femme, Élisabeth, elle était de la même famille que Marie, la mère de Jésus. Là, les évangiles nous disent qu'elles étaient parentes, toutes les deux. Et vous avez vu avec moi, tous les deux, ils étaient déjà assez âgés et ils n'avaient pas d'enfants parce que malheureusement, Élisabeth, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Mais voilà qu'un jour, il y a quelque chose de formidable qui se produit, alors que Zacharie est dans le temple, il a vu carrément un ange se présenter à lui. Personne d'autre l'a vu, ils étaient juste dans le lieu très saint, là, il était isolé, personne d'autre voyait ce qui se passait. Mais alors qu'il était là pour apporter de l'encens devant Dieu, pour pouvoir adorer Dieu et apporter ça au nom du peuple, il y a cet ange qui est venu le voir et qui lui a annoncé quelque chose d'extraordinaire, qui lui a dit que Élisabeth allait finalement enfin avoir un enfant. C'était difficile à croire pour lui, vu que sa femme elle était stérile, elle n'avait jamais pu avoir d'enfant avant. Et en plus maintenant, lui et elle étaient tous les deux déjà assez vieux. Personne ne s'attendait à ce qu'ils puissent maintenant enfin avoir un enfant. Et c'était tellement extraordinaire cette annonce qu'il a reçue que Zacharie, il a eu un petit moment de doute là quand même. Ça me rappelle un petit peu lorsque les anges de Dieu sont venus voir Abraham et puis Sarah, qui leur annonçaient qu'il allait enfin lui aussi avoir un enfant. C'était un peu la même situation, que Sarah était stérile et puis un jour, Dieu lui a dit « tu vas avoir un enfant ». Aussi bien Abraham que Sarah, ils ont eu un petit temps d'hésitation, à dire « mais est-ce que ça va vraiment se produire ?» Et là, lorsque Zacharie a réagi comme ça, l'ange lui a dit « d'accord, tu as du mal à le croire, mais je vais te donner un signe. Le signe, c'est que tu ne pourras plus parler. » 9 mois de silence. Je ne sais pas lequel des deux était le plus bavard à la maison, mais en tout cas, là, à partir de ce moment-là, Zacharie n'a plus pu parler du tout. Et l'ange lui a dit, ça sera ton signe, c'est ça qui va te prouver que c'est bien Dieu qui parle, là, que c'est bien Dieu qui a fait cette promesse. Et vous voyez, quand il est ressorti là, du temple, il essayait de parler, mais ça ne voulait plus sortir. Il ne pouvait plus. Et tout ce que les gens ont compris, c'est qu'il s'était passé quelque chose, mais ils n'ont pas pu avoir les détails parce que Zacharie ne pouvait pas leur expliquer. Et finalement, la promesse de Dieu s'est accomplie. Derrière, Élisabeth, elle est tombée enceinte. Et avec tout ce qu'elle avait vécu avant, au début, elle a pas trop voulu que ça se sache. Vous avez vu, elle a préféré se cacher chez elle pour en profiter, se dire un peu, ça y est, je vais enfin avoir un enfant. Et elle voulait savourer ce moment. Et donc, les mois ont passé et voilà qu'au bout de 9 mois, arrive le moment où elle doit accoucher. Là, on a la suite, toujours dans l'évangile de Luc, lorsqu'on va au verset 57. Voilà, Luc chapitre 1, verset 57, c'est le moment où Élisabeth doit accoucher. Et elle met au monde un fils. Ses voisins et les gens de sa famille apprennent cela. Le Seigneur est grand, il a été très bon pour elle. Et ils sont dans la joie avec Élisabeth. Une semaine plus tard, ils viennent pour faire circoncire l'enfant et ils veulent lui donner le nom de son père, Zacharie. À l'époque, c'était la coutume. Souvent, les enfants recevaient le même nom que leurs parents. Mais sa mère prend la parole. Non, il s'appellera Jean. Et ils disent, mais dans ta famille, personne ne porte ce nom-là. Et ils font des signes au père pour lui demander comment veux-tu l'appeler. Zacharie demande quelque chose pour écrire. Et il écrit, son nom est Jean. Tous sont très étonnés. Et au même moment, Zacharie peut de nouveau parler. Il chante la bonté de Dieu. Alors tous les voisins ont peur. Et dans toute la région, des montagnes de Judée, on raconte tout ce qui s'est passé. Tous ceux qui apprennent cela le gardent dans leur cœur et ils se demandent quel sera l'avenir de cet enfant. En effet, la puissance du Seigneur est avec lui. Jean, il a fini par naître là, miraculeusement, par la puissance de Dieu, comme Dieu l'avait annoncé. Et vous voyez, au moment où il a enfin pu recevoir le nom, où la promesse s'accomplit jusqu'au bout, puisque l'ange lui avait dit qu'il allait avoir un fils et qu'il allait falloir l'appeler Jean. Et c'est le jour où ils ont donné le nom à cet enfant que Zacharie a retrouvé l'usage de sa parole. Et ce qui est formidable, c'est que les premières choses qui sont sorties de sa bouche, c'est des louanges. Les premières choses qui sont sorties de sa bouche lorsqu'il a pu parler, c'était de dire « merci Seigneur », c'était de glorifier Dieu pour le miracle qu'il avait reçu. Mais le miracle pour Jean, il ne s'est pas arrêté à sa naissance. Jean avait quelque chose de particulier. C'est que dès le ventre de sa mère, alors qu'il était encore dans le ventre de sa maman, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on arrive à imaginer ça? Pour nous, on se dit, déjà, il faut être adulte, il faut se convertir, il faut s'être fait baptiser avant de pouvoir être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit alors qu'il est encore, il est encore un enfant? Oui, ça arrive. Vous demanderez à Valérie de vous raconter. Mais là, lui, c'était même carrément avant même qu'il soit né. Et la preuve, c'est qu'il était tellement rempli de l'Esprit de Dieu que lorsque Marie est venue voir Zacharie et Élisabeth pour vivre avec eux pendant quelque temps, Et bien, au moment où elle est rentrée, Élisabeth a senti le bébé se réjouir dans son ventre. C'est dans ces quelques versets en arrière, si on remonte un tout petit peu, avant la naissance de Jean, au verset 39, Luc raconte ceci, il dit « Peu de temps après, Marie s'en va, elle marche vite vers les montagnes dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant remue dans son ventre. Alors Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint et elle dit d'une voix forte « Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi, quel honneur pour moi !» Oui, quand mes oreilles ont entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie dans mon ventre. Jean, dans le ventre de sa maman, il a senti que quand Marie arrivait, Marie, elle était enceinte de Jésus. On sait que les deux étaient parentes, alors peut-être que Jean et Jésus étaient comme des cousins. Vous imaginez qu'il n'était même pas encore né, Jean, que déjà il avait senti que son cousin Jésus là, venait lui rendre visite. Ça, on le voit pas souvent, ça, quand même. En général, il faut déjà qu'un bébé y naisse et puis qu'il grandisse un petit peu pour être capable de réagir vraiment quand quelqu'un vient le voir. Mais là, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné de la joie parce que Jésus venait lui rendre visite. Et c'est donc cet enfant-là qui est né par miracle qui va devenir le fameux prophète Jean-Baptiste. Et on va regarder un petit peu ce que c'était que sa vie en tant que prophète. Parce que Jésus lui-même a rendu témoignage que Jean-Baptiste était un des plus grands prophètes qu'il ait jamais eu. Dans Matthieu, au chapitre 11, Jésus explique qui était Jean-Baptiste d'après lui. Et donc, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, donc Jean-Baptiste, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie, qui devait venir. Jésus, lorsqu'il parle de Jean, il nous dit que c'est un des plus grands prophètes, même le plus grand prophète qu'il ait jamais eu jusqu'à ce moment-là. Et non seulement il nous dit que c'est un très grand prophète, mais en plus il le compare à un autre prophète de l'Ancien Testament, le prophète Élie. C'est pas le seul d'ailleurs Jésus qui le compare, parce que vous avez vu quand Gabriel est venu annoncer à Zacharie qu'il allait avoir un enfant, il lui a dit que c'était lui, l'Élie, qui devait venir. Et ça veut dire quoi l'Élie qui devait venir ? En fait, c'est les tout derniers versets de l'Ancien Testament. Quand vous prenez les livres de l'Ancien Testament, le dernier livre, c'est le livre de Malachie. Et à la fin du livre de Malachie, les deux derniers versets, enfin surtout l'avant-dernier, il nous dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Et le verset suivant dit que c'est lui qui ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et des enfants vers leurs pères. C'est ce qu'a dit l'ange à Zacharie. Et c'était un sacré honneur d'être comparé à Élie en tant que prophète. Élie, c'était vraiment un des plus grands prophètes pour les Juifs. Entre Élie et Moïse, c'était les deux grandes figures de l'Ancien Testament. Quand vous parliez aux Juifs des prophètes, pour eux, c'était avant tout, il y avait Moïse, il y avait Élie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la transfiguration, c'est quand Jésus était sur la montagne avec certains de ses disciples, et à un moment, il y a eu une grande lumière, et Jésus parlait avec deux personnes qui étaient apparues là. Et l'évangéliste nous dit, il est en train de parler avec Moïse et avec Élie. Parce que Moïse et Élie, à eux deux, ils représentaient tout l'Ancien Testament, tout ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament. C'était toute la loi et les prophètes. Alors là, quand on vient de dire de Jean, c'était carrément comme si c'était le prophète Élie qui revenait. C'était quand même extraordinaire pour lui. C'était une grande responsabilité. Et c'est vrai que que Jean-Baptiste avait quelques points communs avec Élie. Déjà, dans son allure, dans son mode de vie, là, d'être à l'écart dans le désert, tout ça, ça ressemblait pas mal déjà à la façon dont vivait Élie à l'époque. Mais surtout, Élie, il était connu Parce qu'il avait la puissance de Dieu avec lui. Il a fait plein de choses formidables qui impressionnaient. Est-ce que vous connaissez certaines des histoires de ce qu'a fait Élie dans l'Ancien Testament? Qui c'est qui peut m'en citer? Attends, Sacha, tu réponds beaucoup, je vais essayer de répondre en note d'abord, ok? Qui c'est qui peut me donner un exemple d'une histoire avec le prophète Élie? Avec les prophètes de Baal, oui, sur le mont Carmel, effectivement, où il y a le feu de Dieu qui est tombé. La veuve, c'est ça, de Sarepta, qui avait presque plus rien à manger, et puis quand Élie lui a demandé de lui préparer à manger, elle a accepté. Et après ça, elle n'a jamais manqué de nourriture pour tout le reste de la période de la famine. Si tu veux, vas-y. Exactement, il y a eu pendant ces 3 ans et demi là, de famine, de sécheresse, il n'y avait plus de pluie. Et à la fin de ce temps-là, lorsqu'il a prié, la pluie est revenue. Et vous voyez qu'il y a eu... Il y a eu plein comme ça d'événements dans la vie d'Élie. Il y a aussi qu'il a traversé le Jourdain, que le Jourdain s'est ouvert devant lui. Et puis même lorsqu'il est reparti auprès de Dieu, il n'est pas simplement mort comme tout le monde, mais c'est carrément un char de feu là, qui est venu le chercher sous les yeux de son successeur Élisée. Et Jean-Baptiste, lui aussi, on l'a dit, il était rempli de l'Esprit de Dieu, il était rempli de cette puissance. Mais à ma connaissance, ou alors j'ai peut-être une mauvaise mémoire, mais je n'ai pas vu un seul miracle de Jean-Baptiste dans les évangiles. Jean-Baptiste, il n'a pas accompli les mêmes miracles qu'Élie, mais ça n'empêche pas la Bible de nous dire qu'il avait quand même cette puissance sur lui. Et cette puissance, lui, il l'a exprimée autrement. La puissance qu'avait Jean-Baptiste, elle était dans sa parole. Parce que Jean-Baptiste, il est surtout connu pour son message, pour ses appels à la repentance, tout comme Élie à l'époque. Élie, il a fait plein de grands miracles, mais surtout le plus important dans la vie d'Élie, c'était le message qu'il annonçait au peuple, parce qu'il a appelé le peuple à la repentance, à se tourner vers Dieu et à abandonner les idoles, à abandonner Baal, tout ce que le roi Achab et la reine Jézabel faisaient faire au peuple qui n'était pas bon aux yeux de Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 3, c'est un peu ce qu'on a lu au début, mais si on lit un peu plus, on voit ce qu'annonçait Jean-Baptiste. Donc Matthieu, chapitre 3, verset 1, nous est dit: à ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée, il annonce: changez votre vie, oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Et un peu plus loin, au verset 7, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, donc ça c'était les chefs religieux juifs, qui viennent pour que Jean les baptise. Et en voyant cela, Jean leur dit: ah, c'est très bien que vous soyez venus me voir, allez-y, entrez dans l'eau, je vais vous baptiser. Non, il ne réagit pas comme ça avec eux. Il leur dit: espèce de vipère. Vous savez ce que c'est une vipère? C'est un serpent. Il les traite de serpents. Il leur dit: espèce de vipère, la colère de Dieu va venir et vous croyez que vous pouvez l'éviter? Qui vous a dit ça? Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Ne vous mettez pas à penser: notre ancêtre, c'est Abraham. Oui, je vous le dis, vous voyez ces pierres ici? Eh bien, Dieu peut les changer pour en faire des enfants d'Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, on va les couper et les jeter dans le feu. Jean-Baptiste, quand il parle, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Il ne met pas les gants pour y aller en douceur. Il ne faut surtout pas choquer les gens, parce que si on leur dit quelque chose qui est un peu trop dur à entendre, peut-être qu'ils vont se vexer, ils vont faire demi-tour, ils vont s'en aller. Non, lui, il n'avait pas peur de dire les choses comme elles étaient. Vous avez vu comme il en rentre dedans? Pourquoi? Parce que parmi les gens qui venaient écouter Jean-Baptiste, il y en avait qui venaient avec des bonnes intentions, qui avaient compris le message de Jean-Baptiste, et puis il y en avait d'autres, comme ces chefs religieux parfois, qui venaient, mais avec de mauvaises motivations. Ils venaient pour que les gens voient qu'eux aussi, ils étaient des gens très saints, très pieux, qui servaient Dieu, qui faisaient ce que Dieu demandait. Et quand Jean-Baptiste y voit ça, il dit: mais non, arrêtez là, vous êtes des hypocrites, vous faites ça juste pour que les gens le voient. Lorsque Jean baptisait, ce n'était pas pour que les autres puissent le voir et puissent aller dire: ah, c'est bien, ceux-là, ils se sont fait baptiser dans le Jourdain. En plus, ça ne se faisait pas beaucoup à l'époque. Lorsque Jean-Baptiste baptisait des gens, c'était parce que ces gens avaient choisi de se repentir. Se repentir, c'est un mot, un mot parfois qu'on a du mal à comprendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on regrette ce qu'on a fait de mal, mais qu'on le regrette tellement qu'on change complètement de comportement, on change de vie. Et lorsque les gens venaient vers Jean-Baptiste et qu'il leur disait « Mais repentez-vous, vous êtes loin de Dieu, là, vous ne faites pas ce que Dieu veut. » Eh bien, les gens, souvent, ils étaient touchés dans leur cœur. Ils disaient « C'est vrai, ce qu'on a fait, c'est tellement mal devant Dieu. On veut changer de comportement, on veut changer de vie. Maintenant, on veut servir Dieu. » Et alors, quand ils avaient cette réaction-là, là, Jean-Baptiste, il les faisait rentrer dans l'eau, il les baptisait pour montrer devant tout le monde que les gens avaient pris cette décision. Quand il voit ses chefs religieux s'approcher, on la lui fait pas à Jean-Baptiste. Lui, il a l'Esprit de Dieu, il voit très bien que dans leur cœur, ben, ils n'avaient pas compris ça, ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il leur dit, mais arrêtez de faire du cinéma, là. Agissez d'une manière qui montre que vous avez vraiment changé. Là, on va vous croire que vous vous êtes repenti. Si vous venez juste pour vous faire baptiser et puis que vous continuez pareil, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il parle là de dire que c'est comme si la hache était sortie, on va faire le tri entre les arbres et dit ceux qui ne portent pas de bons fruits, on va les abattre. C'était quoi porter du bon fruit ? C'était accepter de se tourner vraiment vers Dieu et que ça se voit à l'extérieur. On ne peut pas juste dire « Moi, j'aime Dieu » et puis qu'après, on ne voit jamais de différence dans ma conduite. Si j'aime Dieu, je dois agir d'une façon qui plaît à Dieu. Et ces hommes-là, c'est pour ça qu'il leur dit « Mais faites de bonnes actions pour montrer que vous avez changé de vie. » Pas parce que si vous faites de bonnes actions, vous allez être sauvés. Mais parce que si vous avez vraiment choisi de vous repentir et d'accepter Dieu, de suivre Dieu, alors vous allez devoir faire des choses qui montrent que vous avez pris cette décision-là. Mais la dernière chose importante que je voudrais souligner dans le message de Jean-Baptiste, c'est qu'il ne s'arrêtait pas à la repentance. Il était surtout centré sur une personne. Jean-Baptiste, il était zélé pour Christ. Dans Matthieu, toujours au chapitre 3, dans les versets 11 à 12, on voit ce que Jean explique à tous ceux qui sont venus l'écouter. Et il leur dit ceci, « Moi, je vous baptise dans l'eau pour montrer que vous changez votre vie. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Et il dit, « Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit-Saint. Dans la cour, il tient son vent dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier, mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. » Là, c'est l'image des paysans à l'époque. Quand ils avaient récolté le blé, après, il fallait frapper le blé pour séparer les grains de toute la paille. Et puis après, on brûlait la paille, ou alors on pouvait, suivant les endroits, c'était réutilisé pour d'autres choses, hein, pour faire des toits. Mais l'important, c'était surtout d'isoler le grain qui allait pouvoir servir à faire la farine derrière. Et là, en fait, il reprend cette même image qu'il avait avant du tri qui allait être fait. Vous avez vu, au début, il parlait des arbres entre ceux qui portent du bon fruit et ceux qui n'en portaient pas. Là, il parle de séparer le grain de la paille, de séparer ce qui mérite d'être gardé de ce qui va être jeté au feu. Et ce tri dont il parle, c'est entre ceux qui vont accepter Dieu et ceux qui le rejettent. Mais vous voyez que celui qui va pouvoir faire ce tri, ce n'est pas Jean-Baptiste lui-même. Il a dit c'est celui qui vient après lui. Celui qui vient après lui, c'est Jésus. Jean, il avait bien compris son appel. Son appel à lui, ce n'était pas de venir sauver le peuple, c'était de préparer la venue du Sauveur derrière lui. Et quand il appelle les gens à changer de vie, à se repentir, c'était surtout pour leur dire que voilà, celui qui va vous aider dans tout ça, c'est celui qui arrive après moi. Celui qui va pouvoir vous aider et transformer vraiment vos vies, c'était Jésus. Et continuellement, Jean parler de Jésus. Il appelait pas seulement les gens à la repentance, mais derrière, il insistait sur le fait qu'il y avait le Sauveur qui arrivait. Il y avait le Sauveur qui allait faire quelque chose pour eux d'extraordinaire, qui allait être encore plus puissant que Jean et qui allait non seulement pouvoir les amener à la repentance, mais même les baptiser de l'Esprit-Saint. Jean, il était conscient de sa place et de la place de Jésus. Et il savait très bien que le plus important, c'était pas lui, c'était Jésus. D'ailleurs, à un autre endroit, dans Jean au chapitre 3, au verset 30, il dit cette phrase, il dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. » L'important, c'est que Jésus grandisse davantage, que tout le monde voit Jésus et que Jean, presque, on peut l'oublier après. Lorsque Jésus est arrivé, la mission de Jean, elle était terminée. Et lorsque Jésus lui-même vient voir Jean pour se faire baptiser, ben on voit que Jean, il était tellement humble devant lui qu'il avait du mal à croire que Jésus veuille se faire baptiser par lui. Si on revient dans Matthieu au chapitre 3 et au verset 13, on voit Jésus venir vers Jean. Et il nous est dit, alors Jésus vient de la Galilée jusqu'au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour que Jean le baptise. Mais Jean n'est pas d'accord. Il dit à Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Jean, il baptisait le peuple d'un baptême de repentance. Mais il avait compris deux choses très importantes. La première, c'est que contrairement aux pharisiens là, qui se croyaient au-dessus de tout le monde, lui, il n'était pas meilleur que les autres. Il savait qu'il était pécheur comme tout le monde et que comme toutes les personnes qui baptisaient, lui aussi avait besoin de repentance. Et la deuxième chose qu'il avait compris, c'est que Jésus, lui, était différent. Et que Jésus, lui, il n'avait pas besoin de ce baptême de repentance. Jésus n'avait rien fait de mal, il n'avait jamais péché, et donc il n'avait pas besoin de se repentir. Et si Jésus a demandé à être baptisé par Jean, ce n'était pas parce qu'il avait besoin de repentance, mais c'était pour donner un exemple à suivre à tous ceux qui allaient venir après lui. Et Jean, lui, avait bien compris qui était Jésus. Il avait bien compris qu'il n'avait pas besoin de tout ça, mais surtout que, alors qu'il n'avait pas besoin de repentance, mais c'est lui qui allait pouvoir amener le salut, qui allait pouvoir amener le pardon pour le reste du peuple. Et que ce pardon, ça allait lui coûter cher. Dans Jean, au chapitre 1, à partir du verset 29, on voit comment Jean explique ça. Et il dit, le jour suivant, Jean voit Jésus qui vient vers lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit « L'homme qui vient après moi est plus important que moi parce qu'il existait avant moi. Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau pour le faire connaître au peuple d'Israël. Et voici le témoignage de Jean. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et il est resté sur Jésus. Moi, je ne le connaissais pas, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit « Tu verras l'Esprit Saint descendre et rester sur un homme. C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et j'en suis témoin, cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. » Jean, il avait compris que Jésus, c'était le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui le lui avait dit. Et vous avez vu qu'il l'a appelé l'agneau de Dieu. Ça voulait dire quoi un agneau à l'époque ? L'agneau à l'époque, c'était celui qui était sacrifié au moment de la Pâque. Et lorsqu'il dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu, c'est parce que Jean savait déjà que Jésus allait mourir pour nos péchés. Et lorsqu'il voit Jésus venir jusqu'à lui, il se dit, mais il n'a pas besoin de repentance, il n'a pas besoin d'être baptisé Jésus. Par contre, les gens ont besoin de savoir qui il est. Les gens ont besoin de savoir que c'est lui qui va sauver son peuple. La révélation qu'il avait eue, Jean, là, elle était parfaitement claire. Elle venait directement de Dieu et c'est un des premiers qui, lorsqu'il a vu Jésus, a pu dire « C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu jusqu'à nous. Et c'est lui qui est venu pour nous démontrer l'amour de Dieu en s'approchant comme ça jusqu'à nous. » Oui, Jean-Baptiste, c'était un personnage haut en couleur, j'ai envie de dire. Quand on voit sa façon d'être, de parler, tout ce qu'il a, même comment il est né, tout ça, c'est un personnage qui a une sacrée histoire. Mais au-delà de tout ça, ça restait quand même le plus humble des hommes parce qu'il avait compris ce que beaucoup d'autres personnes de son temps n'avaient pas encore compris, c'est qui était Jésus. Il avait compris que Jésus, c'était plus qu'un prédicateur là, qui allait se promener un peu partout dans le pays d'Israël pour prêcher. Il avait compris que Jésus, il était là pour apporter plus que simplement un enseignement. Il avait compris que Jésus, c'était le Christ, c'était le Fils de Dieu. Et qu'il était venu par amour pour donner sa grâce, son pardon et pour nous offrir le salut, pour que nous aussi on puisse être pardonnés de nos péchés. Il savait que Jésus, c'était l'agneau qui était destiné à mourir pour nous sur la croix. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, le même message qu'annonçait Jean, c'est le même qu'on annonce encore aujourd'hui, c'est le même que je vous annonce encore aujourd'hui. C'est le message de la croix, de ce que Jésus est venu faire pour nous. Et pour terminer ce message, j'aimerais bien que tous on baisse la tête un petit moment, et puis que chacun puisse y réfléchir, comme si on était en train d'écouter Jean là, qui est en train de nous parler. Et Jean qui nous dit, mais repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire, tournez-vous vers Dieu, parce que Dieu va bientôt envoyer Jésus, que Jésus va bientôt revenir pour nous chercher. Et est-ce que nous sommes prêts pour le retour de Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir la grâce de Jésus? Oh, je suis sûr que beaucoup dans cette église ce matin peuvent dire, oui, ça y est, moi j'ai fait la paix avec Dieu et je sais que lorsqu'il reviendra, je serai avec lui. Mais si certains n'ont pas encore pris cette décision, écoutez cette voix de Jean qui vous dit, mais repentez-vous et acceptez Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Jésus, il est venu, et c'est vrai qu'on se rappelle de sa naissance à Noël, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il est mort à la croix pour nous. Il a payé pour ôter le péché du monde. Alors, chacun dans votre cœur, si vous ne l'avez pas encore dit, vous n'avez pas encore dit à Dieu, mais moi aussi, je veux me repentir, je veux me tourner vers toi, je veux abandonner tout ce qui n'était pas bon dans ma vie, eh bien, faites-le ce matin, en disant à Dieu, oui Seigneur, c'est vrai que moi aussi j'ai besoin de repentance. Moi aussi j'ai besoin de te demander pardon. Et j'ai besoin que Jésus me sauve. Oui Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous ce matin, Seigneur. Te prier vraiment que tu puisses parler à chacun de nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Et en particulier à ceux qui ne t'ont pas encore reçu dans leur vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ce matin, les cœurs de chacun soient ouverts, Seigneur, pour entendre le message que tu avais mis dans la bouche de Jean, Seigneur mon Dieu. Et que les cœurs ce matin choisissent de se repentir et de se tourner vers toi, Seigneur. Oui, je te prie, Seigneur, vraiment de toucher chacun de nos cœurs ce matin et que chacun puisse dire, oui, je reconnais que Jésus est l'agneau de Dieu qui m'a sauvé. Et pour ceux qui ont déjà fait ce choix, Seigneur, que tu puisses faire de nous aussi des Jean-Baptiste qui vont annoncer aux autres que Jésus est l'agneau de Dieu. Que tu puisses mettre en chacun de nous cette même audace, cette même assurance qu'avait Jean-Baptiste pour annoncer qui tu es et combien tu nous aimes, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie de poser ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur. Oui, tu es celui qui baptise du Saint-Esprit, alors envoie ton feu sur chacun d'entre nous ce matin, Seigneur mon Dieu, pour toucher les cœurs de ceux qui ont besoin d'être bouleversés, Seigneur mon Dieu, pour embraser le cœur de ceux qui sont encore trop tièdes dans la foi, Seigneur mon Dieu. Oui, envoie ton Esprit et parle à chacun de nos cœurs selon ce que chacun a besoin d'entendre, Seigneur. Travaille dans chacune de nos vies, Seigneur, et transforme-nous, Seigneur. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Amen.